Amis auditeurs d'Impromptu, bonjour. Florence Aubenas, détenue pendant 6 mois comme otage en Irak en 2005, quand elle couvrait la guerre pour le compte de son journal Libération, est devenue un symbole très médiatique du métier de journaliste d'investigation. Revenue très vite à son métier avec humilité, obstination, grand reporter au Nouvel Observateur, elle a choisi un endroit et un emploi où on est l'otage des conditions économiques les plus banales, les plus basiques qui soient. Un bac en poche, pas de qualification, que peut espérer faire une femme sur le marché de l'emploi ? Des ménages. Son nom et son prénom qui ont fait la une de nos quotidiens n'ont rien évoqué chez ses employeurs éventuels, et c'est dans cette position qu'elle tient ce récit de vie dont je vais vous lire des extraits. C'est en effet une sorte de journal qu'elle tient, une correspondance qu'elle nous adresse d'un pays qui est le nôtre, si proche et si lointain. À écouter sa voix et les multiples voix dont elle se fait l'écho. J'ai déjà fait le tour des agences d'intérim de Caen. Elles se concentrent dans quelques rues autour de la gare et sont presque toutes construites sur le même modèle. Une pièce vide avec un comptoir. Dans l'une, la première je crois, mais je finis par les confondre, j'annonce triomphalement « j'accepterai tout ». « Oh, ici, tout le monde accepte tout », dit le jeune homme derrière l'ordinateur. Je lui demande ce qu'il y a en ce moment. « Rien ». En revanche, il voit passer toutes sortes de gens, y compris ses collègues de l'agence d'intérim à côté où les licenciements ont commencé. Il dit que son tour viendra peut-être. Il regarde la rue au travers de la vitrine, son visage rond reste immobile, ne reflétant ni espoir ni peur, et il conclut un peu solennel « C'est la crise ». Au clocher de l'église Saint-Michel qui surplombe de sa masse le pâté de maison, quelques coups sonnent dans le calme de l'après-midi. L'une après l'autre, les agences refusent de prendre mes coordonnées. On me traite avec une douceur d'infirmière dans un service de soins palliatifs, mais fermement. Les questions tombent, toujours les mêmes. Est-ce que j'ai une expérience dans l'intérim ? Non. Est-ce que j'ai au moins une expérience quelconque et récente à Caen ? Non et non. Alors vous ne pouvez pas être classé parmi les personnes très très sûres. « Les risques zéro », précise un autre jeune homme dans une autre agence. Aujourd'hui, les risques zéro sont les seuls auxquels les employeurs font appel pour l'intérim. On a un fichier spécial pour ça, même pour les remplacements de 24 heures à l'usine de steak haché. Dans le chapitre 2, intitulé « L'abattage », Florence Aubenas explique comment elle en vient à chercher un emploi comme femme de ménage. C'est Pôle emploi qui m'a proposé de devenir femme de ménage. Tout s'est passé très vite sans que je m'en rende vraiment compte. Je m'étais officiellement inscrite au chômage au début du mois de mars 2009, sans idée arrêtée. Plusieurs offres me seraient faites, forcément. J'aurais le temps de les soupeser avant de me décider. En tout cas, je voyais les choses comme ça. Dès mon premier entretien, au bout d'une douzaine de minutes, une conseillère m'a annoncé sur un ton raisonnable. La meilleure solution pour votre projet personnalisé d'accès à l'emploi est de vous orienter vers la spécialité d'agent de nettoyage. Au moment où je m'entendais répondre « oui », j'avais déjà la main de la conseillère dans la mienne. Elle la secouait fermement, tout en me reconduisant vers la sortie. Ça y est, c'était fait. Vers 10h45, le jour de mon inscription, nous sommes une quinzaine à attendre dans un des 8 sites Pôle emploi de Caen. Il y a du monde, mais pas de bruit. Un calme soucieux, épais, presque palpable, qui amplifie chaque son. Chaque chose semble conçue pour créer une sorte d'inconfort neutre où rien n'invite à s'installer ni même à s'attarder au-delà du temps strictement indispensable aux formalités. La pièce est un grand hall qui sert à la fois de comptoir d'accueil, de salle d'attente, de cabine téléphonique pour les démarches. On peut aussi y consulter les offres d'emploi sur des ordinateurs. Ces fonctions ne sont isolées par aucune paroi et tout s'y fait debout, derrière des sortes de guichets à hauteur d'homme, si bien que les gens semblent flotter parmi les courants d'air entre des murs aux couleurs banales, y compris les conseillers de l'agence. Eux non plus n'ont ni fauteuil ni bureau. Chacun paraît éviter le seul endroit où il serait possible de s'asseoir. Quelques chaises, soudées par des barres de métal installées devant un écran. Diffusées en boucle, un film de Pôle emploi répète sur un ton de comptine « Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Vous pouvez être radié. » Plus loin, dans le récit, la journaliste nous donne un autre aperçu de ses formations. Notre atelier commence. On devait être 12, on est 9. La séance s'ouvre sur l'immuable exercice qui consiste à se présenter les uns aux autres. Une jeune fille, prise d'un fou rire permanent, ne parvient pas ne serait-ce qu'à articuler son nom. Un adolescent avec une grande araignée tatouée dans le cou ne voit pas pourquoi il raconterait sa vie à des inconnus, ni pourquoi il apprendrait à faire un CV, ni même pourquoi il le donnerait à d'éventuels employeurs. Il est pâtissier. Et les pâtissiers se connaissent entre eux. Ils savent de quoi ils parlent dans leur langue à eux, de pâtissier, sans avoir besoin de CV. Dans son cou, les pattes de l'araignée semblent s'être mises à bouger à mesure qu'il se gonfle de colère. « Personne n'est obligé de rester, » dit l'agent chargé de l'atelier. Elle demeure tout à fait courtoise et nous regarde avec de gros yeux pâles, transparents à fleur de tête. « C'est une aide qu'on vous propose, pas une obligation ?» Un stagiaire répond à son téléphone sans prendre la peine de baisser la voix. « Non, non, tu ne me déranges pas, je suis à un stage bidon, j'arrive dans 5 minutes. » Il s'en va en même temps que l'araignée et la jeune fille au fou rire. L'agent commence. Les employeurs sont submergés de candidatures spontanées. Ils en reçoivent par centaines. Je ne suis pas sûre qu'ils veuillent avant tout les compétences. Ils cherchent quelqu'un qui accroche. Il faut vous faire remarquer à tout prix. Elle a l'air d'y croire. Le stage CV va nous apprendre à camoufler les trous, les bosses, les dévennes, les passages à vide, l'expérience qui flanche, l'absence de spécialisation et même les CV blancs, les plus ingrats, ceux où il n'y a presque rien. Elle me regarde de ses yeux pâles comme le vôtre. Elle nous donne des formules qu'aucun d'entre nous n'imaginerait trouver tout seul, comme expérience variée ou compétence transférable. Une dame qui a peur de ne pas s'en souvenir me demande de les lui écrire au dos de sa carte de bus. L'agent continue. L'employeur consacre en moyenne entre 30 secondes et 2 minutes pour lire un CV. N'évoquez pas vos difficultés matérielles, vos divorces, vos périodes de chômage. Il faut lui donner l'envie de vous rencontrer. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Avant de mentionner un détail, pensez qu'il indisposera peut-être celui qui vous lira. Dans le doute, abstenez-vous. Si le CV est attirant, c'est gagné. Mais attention, gagner ne veut pas dire qu'on a décroché un boulot. Du travail, vous le savez, il n'y en a pas en ce moment. Mais le boulot le plus représentatif de tous ceux que fera Florence Aubenas est celui qui consiste à nettoyer les ferries qui font le voyage vers l'Angleterre. Deux petites lignes sont apparues sur mon écran. Société de nettoyage à Ouistreham cherche employés pour travailler sur les ferries. Débutant accepté. La voilà, la fameuse petite annonce. J'appelle immédiatement, c'est irrésistible. Il faut se présenter le jour suivant, à 9h30 au siège de l'entreprise, quai Charcot à Ouistreham, avec papier d'identité et photos en couleur. Les locaux de la société ressemblent aux baraques à bateaux qui les entourent, bas et fonctionnels. Dans l'entrée, un gaillard à la moustache couleur de cidre est en train d'engueuler un candidat. « C'est la deuxième fois que vous venez postuler. La première fois, vous aviez des problèmes d'emploi du temps et de voiture. Est-ce que vous les avez résolus ? Non ? Alors pourquoi vous revenez ? Au revoir. Les autres, asseyez-vous autour de la table. » Nous sommes une dizaine, hommes et femmes mélangés. Il se révèle vite que le gaillard à moustache ne peut être que le patron, le grand patron, comme je l'entendrai désigner plus tard, ou plus respectueusement encore par son seul prénom, Jeff, que les gens du ferry, surtout les plus humbles, aiment à faire sonner dans leurs conversations. Jeff habite une autre ville, à plus de 100 km de Ouistreham. Tous les jours, avant l'aube, il avale 2 heures de route en voiture pour arriver sur le port, au petit point du jour, un peu avant qu'accoste le premier ferry, qui, lui, vient d'Angleterre. Jeff nous regarde, l'un après l'autre, assis autour de la table. Personne n'a osé enlever son manteau. Un type a même gardé son casque de moto et ses gants comme s'il s'attendait à se faire éconduire lui aussi, et de telle manière qu'il lui faudrait décamper précipitamment. « Vous sortez vos papiers d'identité, je les photocopie. Vous ferez une formation demain matin, vous commencerez après-demain. Il y a en général 3 ferries par jour, à 6h, à 14h, à 21h30. On fait le ménage pendant l'escale, entre le moment où le bateau arrive et celui où il repart. Pour commencer, vous serez embauché sur l'horaire du soir, 6 jours par semaine, congé le mercredi. La vacation à bord va jusqu'à 22h30. Ça fait 1 heure payée en salaire de base. Après, on verra. Pas de questions ? On passe nos documents. Une dernière chose, dit Jeff. Si vous venez de Caen, il vous faut une voiture. Il n'y a pas de bus correspondant à vos horaires de travail. Je vous conseille aussi de vous regrouper pour partager les frais d'essence, sinon vous mangerez toute la paye en carburant. Vous toucherez un peu plus de 250 euros par mois avec des primes, les jours fériés ou les dimanches. Il brandit nos papiers en éventail devant lui comme un jeu de cartes. Pas de regrets ? Tout le monde a bien entendu ? Personne ne reprend ses billes ? Il me regarde. Vous avez une voiture ? Je mens immédiatement. Oui, bien sûr. Jeff continue de me regarder. Si vous le dites. Il inscrit nos noms, nous tend les cartes. Vous pouvez partir. Ça y est, c'est fait. On a signé pour 6 mois. Cela a duré 10 minutes et, hormis Jeff, je n'ai presque aucun souvenir de ceux qui étaient avec moi autour de la table. Après avoir expliqué la tâche à réaliser, Florence et Marie-Lou s'y attellent. Le ferry se donne le style d'un paquebot de croisière version populaire. Chaque chose est là, à sa place, flambante et astiquée comme veut la tradition. Le laiton, le bois verni, la moquette, les cuivres et les fauteuils club, le bar et ses alcools. Et il manque les sensations qui devraient les accompagner, celles du moelleux et du feutré. Le menu routier du restaurant offre des frites à volonté en self-service et les affiches anciennes vantant la côte de Nacre sont des reproductions. Morissette, la chef d'équipe, est désignée pour nous former. Elle a les cheveux très courts, blond platine, un physique taillé pour l'ouvrage. Son humeur monte et descend comme la mer et nul ne sait quelle Morissette va répondre quand on s'adresse à elle. Ça lui plaît, elle en joue. Marie-Lou et moi restons collés l'une contre l'autre en essayant de ne pas commettre d'impair. Vous deux, là, vous allez faire les sanis. C'est le premier mot que j'apprends à bord. Sani veut dire sanitaire, qui lui-même signifie toilette. Faire les sanis, c'est laver les toilettes. Tâche majoritaire à bord et exclusivement féminine. Parfois, on dit à un employé homme, « Tu vas faire les sanis. » Mais ça ne se réalise jamais. C'est forcément pour faire une blague. Même avec les fortes têtes ou les souffres-douleurs. Les hommes passent l'aspirateur, l'auto-laveuse, nettoient les restaurants ou les bars, dressent les couchettes pour les traverser de nuit. Jamais ils ne frottent la cuvette des WC. Aujourd'hui donc, nous allons être formés au sani des cabines passagers. Morissette nous met dans les mains un panier en plastique avec deux pulvérisateurs et une vingtaine de chiffons, puis nous entraîne en courant dans le premier des interminables couloirs du ferry, si étroit qu'il faut se plaquer contre la paroi lorsqu'on se croise. Les cabines sont d'un seul côté, environ tous les 2 mètres. Morissette ouvre la porte de la première et se précipite dans l'espace minuscule où s'imbriquent 4 couchettes superposées et un cagibi de toilette comprenant lui-même un lavabo, une douche et des WC. Elle se jette à terre si brusquement que je pense d'abord qu'elle a trébuché. Je veux la relever, mais sans même un coup d'œil derrière elle, elle s'ébroue pour me repousser et à genoux sur le carrelage se met à tout asperger avec un pulvérisateur du sol au plafond. Puis, toujours accroupie, elle chiffonne, sèche, désinfecte, astique, change le papier toilette et les poubelles, remet des savonnettes et des gobelets en une rangée impeccable au-dessus du lavabo, vérifie le rideau de la douche. Tout a duré moins de 3 minutes. C'est le temps imparti pour cette tâche. Morissette se rue hors du cabinet de toilette. Dans la cabine, elle époussette tout ce qui peut l'être, fait briller les miroirs, ramasse les papiers, 30 secondes. Dans le même temps et le même espace s'agitent au moins 2 autres employés qui changent les draps des couchettes, on dit faire les bannettes, et passent aspirateur, on dit être d'aspi. Tous réussissent à s'éviter, les bras et les jambes se croisent au millimètre près. Le drap s'envole au ras des têtes sans les frôler, à un rythme parfait que la frénésie déployée par chacun dans sa tâche et l'étroitesse des lieux rendent particulièrement spectaculaire. Une des filles chante, il jouait du piano debout, d'autres rythment le refrain d'un coup de hanche. Morissette se retourne. Tout doit être impeccable. Faites surtout attention de ne laisser aucun cheveu. N'oubliez pas de prendre un chiffon de couleurs différentes pour les water. D'éponger chaque goutte dans la douche, surtout si elle a servi récemment. De ne laisser aucun savon usagé. De jeter tous les rouleaux de papier toilette entamés. J'oublie tout immédiatement, dans un effarement proche de la panique. Quand Morissette annonce « Maintenant, allez-y », je manque me trouver mal. Elle nous fait un grand sourire. « Vous avez de la chance, elle est de bonne humeur », dit une fille. En un quart d'heure, mes genoux ont doublé de volume. Mes bras sont dévorés de fourmis et j'écume de chaleur dans le pull que j'avais cru prudent de garder. Je n'arrête pas de me cogner dans les gens, les meubles. Je ne suis pas loin d'éborgner une collègue avec un pulvérisateur pendant qu'elle fait les bannettes. Elle ne se trouble pas. Moi, le mois où j'ai débuté, j'avais des crampes dans tout le corps. J'ai perdu au moins 6 kilos. Régulièrement, j'entends derrière moi le cri de Morissette qui déchire le vacarme de la coursive. « Florence !» Ça veut dire que j'ai fait une connerie. « Viens là. Tu vois rien dans la douche? Les poils, là, sur le côté. » Il faut recommencer à frotter devant elle, à 4 pattes dans les sanies, pendant qu'elle continue de cravacher le reste de la troupe, sans regarder derrière elle. « Allez, les filles, dépêchez-vous, faut tenir la cadence, on n'a pas fini !» Je repars dans l'autre sens, à garde, non sans ressentir un certain soulagement quand je me rends compte que la personne que je viens de renverser est la seule que je connaisse, Marie-Lou. Sa métamorphose est stupéfiante. « Oh, dis donc, qu'est-ce que t'es rouge et trempée ? On dirait que tu es passée à la machine à laver. » Elle, outrée. « Bah, tu t'es pas vue ? T'es mauve ! Je t'aurais pas reconnue !» Les vacations se succèdent avec leurs modalités toutes plus drastiques les unes que les autres, pour les employés comme Florence. Elle est à ce moment-là employée par une société de nettoyage appelée l'Immaculée. La première consigne concerne le bureau du directeur et ne souffre aucune dérogation. Tout doit être parfait, c'est lui qui paraphe notre contrat. Le reste se récite dans le désordre et j'en oublie sans doute. Il faut toujours vider les corbeilles, mais en ne changeant les sacs poubelles qu'en dernière extrémité, quand ils finissent par tomber en lambeaux. Ils sont à notre charge. On serait ruinés si on en mettait des neufs à chaque jour, à chaque corbeille. Ensuite, épousseter le téléphone et tout ce qui se trouve sur le dessus de la table. Mais surtout sans rien déranger. Ne jamais toucher à l'ordinateur. Certaines ont été accusées de catastrophes informatiques. Ne vous y risquez pas. Enfin, et c'est une des règles sur lesquelles M. Médard insiste spécialement, veillez à ce que le fauteuil soit bien droit, pile devant le poste de travail, ce qui donnera une impression d'ordre et de netteté à quiconque pénétrera dans la pièce le lendemain matin. L'entreprise de nettoyage précédente assurait la prestation en 2 heures. L'immaculée lui a arraché le marché en rabiotant 15 minutes. J'ai donc 1h45 pour tout faire seul. Monsieur Médard m'assure que j'ai de la veine. Dès qu'il y a plus de 3 personnes dans une équipe, les problèmes commencent. Bon courage. Certains employés sont déjà partis, d'autres pas. Comme une faveur, le directeur me demande, s'il vous plaît, de ne pas nettoyer son bureau en faisant d'incroyables contorsions pour éviter de croiser mon regard. Mes relations de travail consistent, pour l'essentiel, à me faire oublier, tout en sachant doser les situations qui nécessitent de se faire totalement oublier et celles où il faut juste un peu se faire oublier. Assises à leur bureau, 2 personnes boivent distraitement du café dans un gobelet. Elles me semblent maintenant appartenir à un autre univers que le mien, d'une manière différente, vaporeuse et lointaine, hors de portée. Les manches de mon pull sont trempées sous la blouse, les cheveux me tombent dans les yeux et ils collent aux gants en plastique quand je veux les repousser. J'ai trop chaud. Je passe mon temps à regarder ma montre avec l'impression que je n'aurai jamais le temps. Je pars avec 3 quarts d'heure de retard. Petit boulot, visite médicale indigne de la déontologie de la profession, rigolade entre copines, coup de blouse lors de la visite au site désaffecté de Moulinex, réparation du tracteur, la voiture hors d'usage de Florence, par des copains. Les scènes se succèdent et décrivent mieux que de grands discours la réalité humaine de si nombreuses personnes. Le début du chapitre 16, intitulé La toile d'araignée, en fait partie. Je rentre de mon remplacement du matin. Il est 8 heures. Il traîne dans le ciel un reste de nuit. Il me semble avoir déjà une journée dans les jambes alors que je n'ai travaillé que 2 heures. Je me suis mise à calculer mes heures de sommeil avec autant de minutie que mes heures de travail. Je reviens du ferry à 23h30. Je me lève à 4h30 pour le premier ménage. Dormir est devenu une obsession. Je gare le tracteur, je traverse la rue. À l'arrêt du tram, un type rose et frais téléphone à tue-tête. Tu te souviens de la fille très blonde qu'on avait rencontrée en boîte au Margouillat à Heurtevant? Elle est enceinte, des jumeaux. Et tu sais quoi? Elle dit que c'est pas moi, mais mon copain, le petit David. Je trouve ça dégueulasse. Je suis sûre que c'est moi. En tout cas, je demande l'ADN. Le soleil vient de sortir d'un coup déjà tiède. J'ai ouvert ma porte, je me suis allongée tout de suite. Je voudrais dormir, je n'y arrive pas. Je flotte dans une vague de mi-conscience dont me tirent des fourmillements dans les bras dès que je m'assoupis vraiment. J'ai des frissons, la fatigue sans doute car l'air est doux. J'ai du soleil plein les paupières malgré mes yeux fermés. Il faudrait que je bouge, je n'y arrive pas non plus. Une mollesse comme quand on a de la fièvre. Je devrais peut-être manger quelque chose. Je me souviens d'avoir avalé une baguette entière dans le tracteur avec 1 litre de Yop Coco, mais je n'arrive plus à savoir si c'était hier soir au retour du ferry ou ce matin au retour du ménage. J'ai l'impression de passer mon temps à rouler en pensant sans penser, la tête traversée par des combinaisons compliquées d'horaires, de trajets, de consignes. Et ce souvenir d'arrêter l'alarme en arrivant à tel endroit, prendre la sortie sur la voie rapide pour aller dans tel autre, remettre les clés du local dans leur cachette. Ne pas oublier de sortir la poubelle de la cafétéria. Mes premières semaines de remplacement sont terminées. L'Immaculée en a heureusement rajouté une autre derrière. La femme de ménage nous a fait porter un nouveau congé maladie, m'avait dit Monsieur Ménard avec un sourire jovial. Cette fois, j'ai l'impression que c'est bien fini. 2 autres entreprises de nettoyage m'ont depuis donné des contrats de quelques jours. Ils se sont arrêtés abruptement. Dans le premier, une fille de l'équipe m'a balancé un seau d'eau au visage. Elle estimait que c'était à moi de nettoyer une porte vitrée dans le hall d'une résidence. Moi, je soutenais n'avoir pas compris que j'avais à le faire. Tu ne te bats pas? M'a demandé une collègue étonnée. Je me suis rendu compte que les autres avaient surgi, sans que je sache comment, des bâtiments alentour. Hommes et femmes avaient posé leur matériel et s'étaient rassemblés autour de nous. L'une a déballé une barre chocolatée, le pied posé sur un bac en plastique. Un type a arrêté sa tondeuse à gazon. Nous avions tous les traits bouffés par les mêmes horaires impossibles, par ce travail à la fois pénible et insuffisant. L'air grésillait d'une fatigue excédée, agressive. Je crois qu'elle n'a pas fait exprès, j'ai dit. Puis comme personne ne bougeait, j'ai ajouté de m'avoir lancé un saut. Il y a eu une hésitation. Le boulot a repris, geste à geste, à regret. En partant, personne ne m'a dit au revoir. Je n'ai pas été trop surprise que la société ne me rappelle pas. Pôle de l'emploi, train de l'emploi, conseiller d'insertion, la batterie de lutte contre la crise semble exister, la réalité est plus terrible. C'est au chapitre 17 qu'une femme, chef d'entreprise, s'exprime ainsi. Les femmes sont plus rentables à 20 heures qu'à 40 dans le ménage. Il ne faut pas leur donner plus. De toute manière, elles n'y arrivent pas physiquement. Avec le salaire, c'est un peu pareil. Pour les métiers de la propreté, une convention collective fixe le taux horaire légèrement au-dessus du SMIC, une dizaine de centimes en plus. Rares ceux sont ceux qui l'appliquent lorsqu'ils passent une annonce officielle par Pôle emploi, organisme d'État. J'ai souvent demandé aux conseillers pourquoi ils ne faisaient pas respecter la loi. À un stage, mais lequel, je ne sais plus, une conseillère m'a dit ne rien y pouvoir. L'autre jour encore, un patron l'a appelé. « Je mets l'heure au SMIC !» Je me fous de vos accords de branche. Et faites comme je vous le dis, sinon je vous mets mon annonce ailleurs. La conseillère est allée voir son directeur, qui s'est mis à se désespérer de la chute des offres depuis la crise et des problèmes avec le ministère si les chiffres continuaient de s'effondrer. Ne commencez pas à décourager les employeurs et agissez comme ils vous le demandent. Ne les contredisez pas, les offres ne sont pas faites selon vos désirs à vous, mais selon les leurs. De toute façon, il n'y a pas de contrôle pour les employeurs, seulement pour les employés. Dans la file d'attente, ma voisine est une femme de petite taille, le chevet gris en chignon, un sac en bandoulière qui pend bas à la hauteur de ses genoux nus, très blanc sous une jupe à godet de couleur foncée. Elle me regarde fixement. On se connaît ? Je ne crois pas, mais je me méfie, je ne suis pas très physionomiste. Elle insiste, on a déjà fait la queue ensemble. Je ne dis toujours rien. De toute façon, dans ce circuit de l'emploi, les mêmes personnes n'en finissent pas de se croiser et recroiser sans cesse. Vous étiez au train de l'emploi il y a quelques mois. C'est vrai, je me rappelle bien la femme au chignon maintenant. Elle m'explique que tout est arrangé à l'avance dans ces trucs-là, comme au cinéma. Elle l'a su plus tard par un beau-frère bien placé dans la gendarmerie. Les gens sont présélectionnés par des réunions collectives à Pôle emploi, puis convoqués par SMS pour finaliser l'embauche sur le quai. « On n'a aucune chance quand on vient juste par une affiche », dit-elle. D'ailleurs, Pôle emploi n'aime pas que les gens se présentent comme ça directement sans passer par eux. Si par hasard ils étaient choisis, le recrutement ne compterait pas pour les statistiques positives de leur agence. Du coup, on s'embrasse vigoureusement en se demandant avec une chaleur subite ce que chacune est devenue. Bon, pour l'une et l'autre, c'est pareil, tout et rien. On travaille tout le temps sans avoir vraiment de travail. On gagne de l'argent sans vraiment gagner notre vie. Elle vient de se faire virer d'une entreprise alors qu'elle commençait à faire son trou. Elle s'en veut, elle arrive toujours en retard. Quand elle s'installe devant Internet, elle ne voit pas l'heure tourner, surtout sur un site de petites annonces où elle vend et achète des vêtements d'occasion. Elle y a même trouvé une machine pour faire du pain presque neuve. « Et vous, vous faites combien par mois ?» demande-t-elle d'un ton faussement détaché. « 250 € au ferry, une cinquantaine ici et là, presque 400 dans une seule boîte, l'Immaculée. Mais rien n'est fixe. » À son soupir, je comprends qu'elle doit flotter dans les mêmes eaux. Elle vient surtout rencontrer les employeurs. C'est pas souvent qu'on peut en voir. Et elle tend une main vers le ciel pour désigner une masse terrible, vivante, incompréhensible, qui bougerait là-haut, bien au-dessus de nous, et déciderait notre sort. Sur la quarantaine d'entreprises de nettoyage de la région, 9 ont pris des stands. Plusieurs autres se sont désistées au dernier moment. Beaucoup ont fait un tas d'histoires, accusant Pôle emploi de n'avoir pas suffisamment sélectionné l'année précédente. les chômeurs conviés à venir postuler sur le salon. La femme au chignon me donne un grand coup de coude. « Regardez, voilà Monsieur Nardon, une des figures de la propreté à Caen. C'est mon conseiller d'insertion qui me l'a dit. » Elle n'ose pas imaginer un poste. Ça fait plusieurs fois qu'elle laisse des CV, mais on ne la rappelle jamais. Un rendez-vous peut-être. Cela serait un gros avantage dans mon dossier pour prouver combien je me démène. Monsieur Nardon n'a l'air de rien. Ni beau, ni laid, ni grand, ni petit, ni riche, ni pauvre. On essaie de lire quelque chose dans ses yeux, mais on n'y voit rien. Seulement un bloc de détermination. Il remonte les allées du salon à grandes enjambées, comme s'il traversait ses propres écuries. Monsieur Nardon a réussi tout seul, à la poigne, en créant une boîte à partir du néant. Il possède, dit-on, un caractère impossible, fait d'emportement et de générosité. Nous courons sur ses talons. Il donne une conférence au salon. « Vous allez voir, il y a un bonhomme dans le pantalon, » dit la dame au chignon. Monsieur Nardon a pris le micro. Ah, bon sang de bonsoir. On vit à une époque où on a du mal à faire confiance. On s'emballe pour quelqu'un et puis au bout de 6 mois, on est déçu. Je viens d'embaucher une fille. Elle est formidable, j'y crois. Eh bien, si ça se trouve, elle va être enceinte avant la fin de l'année. C'est un risque. Tant pis, je le prends. En tout cas, je n'embauche plus que des gens qui ont une voiture. Il nous est arrivé de financer le permis à des gens qui paraissaient très volontaires et motivés. On voulait leur offrir une chance. Les dossiers avaient été montés par des organismes spécialisés. Un des types n'a jamais passé l'examen. L'autre est parti 15 jours après l'avoir décroché. Ça m'a dégoûté. Je ne le fais plus. Maintenant, j'estime que quelqu'un qui n'a pas le permis, c'est une difficulté de plus. Je ne le prends pas. Nous devons être une bonne trentaine à l'écouter. Il nous regarde. Il en a tellement vu des comme nous, les tremblantes, les résignées, les travailleuses, les impatientes, les condamnées, les ambitieuses, toute cette humanité suspendue à lui et qui espère un signe. Il reprend le micro. Pour certains, le moindre grain de sable est un obstacle. Les gens qui pointent à l'usine, cela ne leur viendrait pas à l'esprit de ne pas venir. Là, ça devrait être pareil. Les gens postulent par dépit. On en est toujours à la mère de famille qui dit à sa fille « Si tu ne travailles pas bien à l'école, tu seras femme de ménage. » Notre entreprise ressemble à un moulin à vent. On vient quand on veut. On va avoir besoin de monde rapidement. Je cherche. Je ne trouve pas. On se précipite au stand de M. Nardon pour être les premières à s'inscrire. Marguerite, Philippe, Sylvie, Victoria, Tony, Germain, Marie-Lou. Là, c'est Marie-Lou qui annonce à Florence la bonne nouvelle. Marguerite a l'air très calme. Elle m'annonce que la fille que je remplace quitte le poste. On a pensé te proposer et soutenir ta candidature. C'est un CDI. On serait contente de travailler avec toi. Les conditions sont miraculeuses pour le secteur. Un contrat de 5h30 à 8h le matin, payé au tarif de la convention collective, 8,94 € brut de l'heure. Parmi les règles que je m'étais fixées, il y avait celle d'arrêter cette expérience dès qu'on me proposerait un contrat de travail définitif. Je ne voulais pas bloquer un emploi réel. Le tracteur m'attend sur le parking. Pendant tout le trajet de retour, c'est à lui que je parle, longtemps, sur le temps de la confidence, des mots de tout et de rien, ceux que je n'ai pas osé dire aux autres. Je venais de faire arranger ses freins, de décrocher enfin le contrôle technique. En janvier 2010, je suis revenue à Caen après les fêtes, dans les rues blanches de neige. Les décorations de Noël éclairaient encore la façade de l'hôtel de ville en vert et en violet. Dans ma rue, la boutique du coiffeur a été remplacée par un cours de piano qui propose d'apprendre à jouer en 24 heures sans connaître le solfège. Je cherche Marguerite et Françoise. Je viens leur annoncer que j'ai écrit ce livre. À côté de la gare, j'ai loué un véhicule sans âme ni odeur, une voiture qui démarre du premier coup, une voiture de journaliste en reportage comme celle dont j'ai l'habitude. À 8 h du matin, je me gare sur le parking de la ZAC pour les attraper à la fin de la vacation. Le givre craque sous les pas, je suis intimidée. Dans le grand hall brillant, je ne reconnais qu'une seule des filles de l'équipe. Françoise est malade. Marguerite a été promue à un autre poste depuis qu'elle a réussi son diplôme. Sa remplaçante renâcle à me donner son téléphone. Quand je ressors, un froid clair a remplacé l'air noir et glacé de la nuit. Ma journée se passe à regarder tourner les heures en attendant de retrouver Marguerite, si j'y parviens, sur son site du soir. J'arrive enfin dans les bureaux vides. Au loin, dans les étages, résonne le cliquetis des chariots. Je prends un ascenseur, je traverse un couloir, je la cherche. Je tombe sur elle à l'instant où je m'y attendais le moins. Ce sont de vraies retrouvailles, avec des rires et des souvenirs sous le néon gris du couloir. Je n'en finis pas de lui demander des nouvelles pour retarder le plus possible le moment où cette bulle d'intimité va éclater. Si ces quelques extraits lus vous donnent envie d'en connaître davantage sur ces hommes, ces femmes auxquelles, par ce récit, Florence Aubenas a restitué le quotidien dans ses difficultés et sa dignité, lisez ce récit publié aux éditions de L'Olivier en février 2010. C'est la musique de John Coltrane, extraite de l'album Stellar Regions, qui a accompagné cette culture.
À la technique, Claude-Michel Pugna et Vincent Blanc.
Lecture et réalisation, Anne Pronot.